Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, notre second thème de curiosité, la disparition des plantes. Bonjour Marc-André Solos.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver.
Bienvenue, vous êtes botaniste, président de la Société Botanique de France, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors c'est ce rapport qui a été publié il y a quelques semaines par l'Union Internationale de la Conservation de la Nature qui nous a alertés. Résultat de 4 années de travail, d'un inventaire qui a été mené en France. Et un constat alarmant, lequel ?
Alors effectivement, c'est un travail énorme, hein, 30 millions de données, le Muséum et l'Agence française de la biodiversité ainsi que tous les conservatoires botaniques des régions de France ont travaillé là-dessus. Et le constat, c'est que 15% des plantes de notre flore sont en danger de disparition. Ça fait quand même 742 espèces, c'est pas rien sur les 6000 qui ont été analysées. Et ça veut dire qu'elles ne sont pas disparues. Mais il est temps d'agir.
Alors, on va détailler évidemment ce qu'on peut faire, détailler aussi quelles plantes sont concernées. En quelques mots, quelles sont les principales menaces ? Si on devait faire une liste, puis après on détaillera tout à l'heure.
Moi, j'en vois 4 principales. La première, c'est le changement climatique. Et c'est une menace globale.
Oui.
Mais il y a 3 autres problèmes qui sont des problèmes qu'on ne peut plus gérer, nous, dans notre façon d'être. La première, c'est l'extension des villes et des infrastructures routières. La deuxième, c'est le changement d'agriculture et notamment des problèmes, par exemple, liés aux pesticides. Et puis, le dernier point, c'est les zones humides, que l'on remblaye, que l'on draine, parce que, ma foi, on n'a pas grand-chose à en faire, où il y a une diversité très intéressante et très spécifique. Ces 3 derniers points-là, c'est des choses sur lesquelles on peut agir encore.
Quelles sont les mesures d'urgence à prendre, justement ? Quelles sont les plantes les plus menacées ? Réponse dans un instant sur RTL.
Jusqu'à 15h.
Le botaniste réalise des inventaires de la flore et des végétations, c'est-à-dire qu'il dresse la liste des espèces qu'il observe sur un site. Ce site peut être un site naturel déjà préservé ou bien un bord de route, un champ. Il peut s'agir également de travailler à l'échelle d'un territoire, comme une communauté de communes, par exemple.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec, sur RTL.
15% des espèces de plantes en France sont menacées à des degrés divers. C'est le constat d'une étude de 4 ans et le thème de notre curiosité avec le botaniste Marc-André Solos. Vous avez participé à cette étude avec le Muséum d'Histoire Naturelle ?
Alors non, moi-même je n'y ai pas participé directement, le muséum a été très actif là-dedans, mais il est bien possible qu'un ou deux relevés que j'ai contribué à faire soient passés dans cette masse d'informations, parce que 30 millions de données, ça veut dire largement autant d'heures de terrain. Et ça, c'est effectivement un gros travail coopératif de toute la communauté des botanistes.
On va reprendre ces menaces, et d'abord les constructions, qu'est-ce qui menace ces plantes, les constructions, les infrastructures, quelles sont les plantes les plus touchées par l'urbanisation ?
C'est pêle-mêle toutes les plantes en fait, des milieux agricoles sur lesquels les villes gagnent. Aujourd'hui, la ville, c'est 22% du territoire. Et les villes sont en pleine expansion parce qu'on se désintéresse souvent des centres-villes, qu'on préfère du neuf en banlieue pavillonnaire que de vivre finalement dans du rénové en ville. Et aujourd'hui, on perd 26 mètres carrés de campagne par seconde. Ça fait un département tous les 7 ans. Alors évidemment, les plantes qui sont à cet endroit-là disparaissent. Et si c'est des plantes qui ne sont qu'à cet endroit-là, eh bien elles disparaissent pour de bon.
Il y a des plantes qui sont que dans ces endroits-là. Enfin, moi, je n'identifie pas toujours, c'est vrai, les plantes qu'on trouve en milieu urbain. Vous avez quelques exemples précis ?
Alors, on a un exemple intéressant en Bretagne, à Belse, avec le Panico vivipare, hein, qui est une plante qui est menacée par l'extension des activités finalement urbaines. Et donc, le problème, il n'est pas lié à la ville elle-même, il est lié à ce qu'il y a dans la campagne autour. Et on a des points chauds de diversité dans certains endroits de France, et il y a des plantes qui sont distribuées qu'à certains endroits.
C'est quel type d'espace naturel qui disparaît sous la pression foncière ? C'est quoi ? C'est des champs ?
Alors, c'est souvent des champs, effectivement, c'est souvent des milieux ouverts et qui sont les milieux les plus divers. Hein. L'essentiel de la diversité se trouve surtout dans des milieux de prairies, dans des milieux avec des buissons. Quand la forêt revient, là, on a un petit peu moins de diversité, contrairement à une idée reçue. Alors, c'est dommage d'ailleurs parce que la forêt française se porte très bien, qui grandit de 0,6% tous les ans.
Sauf qu'il n'y a pas tant de diversité que ça dans la forêt, c'est ça ?
Et voilà, l'essentiel de notre diversité, elle a été construite dans des milieux où l'homme avait une activité agricole, l'activité agricole d'hier, semailles, moissons, pâtures, et c'est la disparition de ces espaces avec une activité agricole traditionnelle qui est dramatique. Parce que d'une part, il y a la ville qui gagne, et d'autre part, les activités agricoles changent de nature et d'impact.
Qu'est-ce qui change dans les activités agricoles? Il y a notamment parlé des espèces messicoles. C'est quoi les espèces messicoles?
Eh bien, ce sont les plantes des moissons, qui sont ce long héritage d'une activité agricole. Ces plantes qui se sont introduites dans nos champs au cours des millénaires, où nous avons retourné nos champs, semé des plantes. Et ces messicoles, aujourd'hui, c'est les bleuets, par exemple. C'est le très bel Adonis, c'est la nigelle des champs. Elles sont en voie de disparition, elles sont menacées de disparition parce que dans ces champs, nous appliquons des quantités de pesticides qui les mettent en péril.
Parmi toutes ces plantes qui disparaissent, et c'est un drame Marc-André Selosse, il y a des espèces endémiques. Déjà, vous nous rappelez ce que ça veut dire une espèce endémique ?
Oui, une espèce endémique, c'est une espèce qui lie un territoire et qui ne pousse que là. Effectivement, en France, nous avons 210 espèces endémiques de France, c'est-à-dire qu'on ne les trouve qu'en France. Mmh. Et là-dessus, il y en a 63 qui sont menacées. Ça veut dire qu'un tiers des plantes qu'on ne trouve qu'en France sont menacées.
Il y en a certaines si elles disparaissent.
Disparaissent du globe.
Ouais, donc là, c'est une forme de responsabilité supérieure, enfin plus importante encore pour nous.
Qui dépasse effectivement la responsabilité vis-à-vis de nos propres enfants, c'est une responsabilité vis-à-vis du monde entier. Quoi.
Est-ce qu'il y a déjà des plantes, des espèces endémiques qui ont disparu sur notre territoire?
Oui. Il y en a effectivement au moins 3 qui ont disparu. Au total, on est à 22 espèces disparues. C'est à la fois grave et pas grave. 22 ramené à 6000, ça veut dire qu'il y a encore temps d'agir. Soyons positifs. On pourra parler de comment agir. Mais il y a déjà des disparitions, c'est clair.
La violette de cri, par exemple ?
Oui, alors oui.
Qu'on a découverte en préparant l'émission, j'avoue que je ne connaissais pas ce que c'était.
Oui, alors moi j'ai découvert aussi en lisant les rapports de ces équipes. Je ne la connaissais pas parce qu'elle a disparu trop tôt pour que j'ai l'occasion de la voir. Pourtant, oui. C'était pas loin, c'était dans l'Yonne. Et elle a été près du village de Cri. Et cette violette, qu'il n'y a que là, a disparu sous l'effet de l'extension des carrières.
Marc-André Selosse, il y a aussi ce qu'on voit ou ce qu'on croit voir. Par exemple, les coquelicots, on a l'impression qu'on en voit de moins en moins. C'est une idée reçue ou c'est une réalité?
On en a vu de moins en moins, on en revoit parce que justement, les plans d'application des pesticides commencent à prendre en compte cette diversité, notamment cette diversité des messicoles dont on parlait tout à l'heure qui est menacée. Et effectivement, on en revoit aussi parce qu'aujourd'hui, ces anciennes mauvaises herbes qu'on a traité à coups de pesticides, on s'aperçoit qu'elles ont des jolies fleurs et on commence à les planter dans les bandes enherbées qu'il y a le long des routes. Vous savez, ces bandes fleuries là, qui font jolies, donc brutalement la mauvaise herbe devient belle. Et en plus, ces bandes enherbées sont des endroits où il y a peu de pesticides, beaucoup de fleurs. Ce sont des endroits merveilleux pour que les abeilles fassent du miel.
Alors, on a encore plein de questions à vous poser. Qu'est-ce qu'on peut faire quand une plante est considérée comme éteinte? Est-ce qu'il existe, une banque française des semences pour sauvegarder ce patrimoine? On répond à toutes ces questions dans un court instant sur RTL. À tout de suite.
L'île Maurice, 1860 km² et une exceptionnelle biodiversité.
La curiosité est un vilain défaut.
Un écosystème, là aussi mis à mal par les activités humaines. Pression urbaine et touristique, quasi monoculture de la canne à sucre et déforestation. Certaines espèces n'y ont pas résisté.
RTL.
L'emblématique dodo, bien sûr, mais aussi des végétaux moins connus, comme le cylindrocline lorenzi, une plante éteinte en nature depuis 1990.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Toujours avec le botaniste Marc-André Selosse qui nous alerte sur la menace qui pèse sur 15% des plantes du territoire métropolitain. 742 plantes précisément qui sont identifiées après 4 années d'études de la biodiversité. Sur l'île Maurice, le conservatoire botanique de Brest a lancé un plan de réintroduction de 30 espèces de plantes disparues. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se fait régulièrement dans différents conservatoires français? S'attellent à cette tâche?
Oui, ils sont très actifs, les conservatoires botaniques, comme on l'a dit, dans l'inventaire et l'identification des espèces en péril, mais ils sont aussi plus activement présents dans la protection. Et une des protections que l'on peut faire, c'est d'entretenir le milieu d'une façon qui est intéressante. Le panico-vivipare, par exemple, il faut entretenir le pâturage, donc on va mettre des zones en pâture pour qu'ils se développent. On a tout un tas de programmes qui même raniment. Le conservateur botanique du bassin parisien a retrouvé une plante, le cicimbre prostré, qui avait disparu depuis 20 ans. Et ils ont trouvé les graines dans le sol et ils l'ont ressemé.
Ah oui.
Donc il y a des programmes effectivement presque de résurrection.
Mais faut les avoir conservées aussi ces semences. Quand le conservatoire botanique de Brest réintroduit 30 espèces disparues, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vraiment disparu. Il y a une sorte de réserve, de boîte au trésor de graines conservées comme ça.
Alors le cicimbre couché, lui, il avait disparu depuis 20 ans et donc il y avait encore des graines dans le sol. C'est comme ça qu'on l'a retrouvé, on a cherché les graines. Ailleurs, il y a aussi des graines dans les jardins botaniques. On les oublie souvent, ceux-là. On en a un, par exemple, très beau, qu'il faut venir visiter au muséum, qu'on appelle l'école de botanique. Ces jardins botaniques sèment et ressèment des plantes. Et ils entretiennent des plantes qui, en même temps, ne sont plus dans la nature. Et ça peut être intéressant pour des programmes de réintroduction.
Mais est-ce qu'il y a une banque en France où on essaye de stocker tout notre patrimoine en matière de plantes ?
Alors, d'un côté, vous pouvez voir ces jardins botaniques comme des banques vivantes, oui. Puisque comme on ressème, on refait des graines prêtes à germer. Ouais. Après, vous pouvez aussi faire des banques que vous conservez au froid. Et là, les graines vont être conservées pendant des durées qui peuvent atteindre le millier d'années, théoriquement.
Ouais. Mais ça existe, ça ?
Alors, ça existe ponctuellement en France pour des groupes d'espèces ou des variétés cultivées. Mais là où ça existe surtout, c'est à l'échelle globale. On a un conservatoire, mais qui s'intéresse encore beaucoup plus aux espèces cultivées d'ailleurs qu'aux espèces sauvages, au Svalbard. Alors, il faut regarder sur une map monde. Hein. C'est une île qui est au nord de la Russie, mais qui appartient à la Norvège. Et en 2008, le gouvernement norvégien a installé une banque là-bas pour congeler des graines. Ils peuvent, selon les cas, effectivement, survivre quelques milliers d'années congelées. Alors, ils ont profité d'un truc tout bête, c'est que, à ces latitudes-là, on est au nord de la Russie, hein, c'est ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire que le sol est gelé en permanence. Donc, vous n'avez pas besoin d'apport d'électricité pour entretenir la congélation, elle se gère d'elle-même.
C'est un trou. Juste être bien couvert quand on vient travailler dans la Banque mondiale.
Je crois qu'il faut des moufles, oui.
Il faut des moufles. Pas pratique pour attraper les graines.
C'est une ancienne mine, hein, où il y a plus d'un million de variétés et d'espèces qui sont conservées, surtout des variétés en fait, de plantes cultivées. Et ce programme, donc, ça a ouvert en 2008, il y a des apports réguliers. Et ce programme, il cache quand même quelque chose. C'est que la quantité de graines, il n'y en aura pas pour tout le monde si un jour on a besoin de ressortir la variété ou l'espèce. Oui. La deuxième chose, c'est que cette quantité de graines, elle fait qu'on sous-échantillonne la diversité génétique des espèces. Prenez la diversité de l'humanité, de diversité de couleur de peau, d'yeux, de cheveux. Mmh. Vous prenez 15 personnes, vous les congelez. Quand vous les décongelez, vous n'avez pas restitué tout de suite la diversité de l'espèce que vous voulez conserver. Une espèce, c'est aussi une diversité d'individus à l'intérieur de l'espèce. C'est pour ça qu'il faut conserver les populations naturelles.
Marc-André Solos, j'allais vous demander qu'est-ce que nous, on peut faire à notre petit niveau, peut-être tout simplement dans son jardin, qu'est-ce qu'on peut privilégier comme graines, comme plantes pour participer à la sauvegarde ?
Si vous avez la chance d'avoir un jardin, n'introduisez pas de plantes exotiques. Plantez des plantes européennes, parce que les plantes exotiques, certaines d'entre elles, ensuite se naturalisent et deviennent invasives. Pensez par exemple à l'armoise qui, dans la région lyonnaise, par exemple, est en train de proliférer en provoquant des allergies absolument insupportables.
Ça ressemble à quoi l'armoise ?
Oh, c'est une petite plante verte, feuille légèrement divisée, avec des fleurs qui ne ressemblent absolument pas à des fleurs et qui fait une quantité de pollen absolument effrayante et qui est responsable de grands problèmes d'allergie. On a aussi la renouée du Japon ou les acacias qui ont été introduits au 16e. D'ailleurs, l'introduction commence dans les jardins du muséum, malheureusement, et qui sont aujourd'hui très envahissants et qui remplacent les plantes locales. Donc, semer européen. Je vais dire semer français.
Bon. Ouais, t'as un slogan politique, ça. Semer européen.
Et puis aussi, dans les habitudes de consommation, il faut consommer des produits dont la production n'a pas abîmé la biodiversité.
Et comment on peut savoir ça ?
Il faut consommer bio.
Voilà, je suis rassurée. Il faut sauvegarder les plantes de notre patrimoine, sinon c'est tout un écosystème qui est menacé. On vous l'explique dans un instant sur RTL.
Voilà.
RTL.
Scabiosa graminifolia.
Sidonie Bonnec. Thomas Hugues.
Floraison bleue en été. C'est une plante excessivement rare, en fait, qu'on trouve à l'état sauvage dans certains endroits du sud de la France que je trouve remarquable par son feuillage argenté.
La curiosité est un vilain défaut.
Les plantes françaises menacées, 15% des espèces pour être précis, selon le rapport de l'Union internationale de conservation de la nature. Pourquoi cette menace est à prendre au sérieux ? C'est ce que l'on découvre avec notre invité, le botaniste Marc-André Solos. Vous avez publié, et on vous avait reçu d'ailleurs dans la curiosité, ce livre « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux, les civilisations » aux éditions Actes Sud. Il faut dire que c'est tout un écosystème qui est en danger si certaines plantes disparaissent. Pourquoi ?
En fait, effectivement, les plantes, comme les animaux d'ailleurs, sont des zoos à microbes. Ils sont infiltrés de microbes dans toutes leurs parties. Pensez par exemple que dans un gramme de feuille d'une plante standard, il y a 100 millions de bactéries. Et donc dans une feuille, vous allez avoir plusieurs centaines d'espèces de microbes qui sont présents. C'est aussi un habitat. Ça ne se voit pas forcément. C'est très important pour la santé des plantes parce qu'on ne parle pas de microbes pathogènes. On ne parle pas de choses qui donnent des maladies sur les feuilles. Hein. Oui. On parle d'habitants réguliers qui contribuent au métabolisme de la feuille, à la protéger contre les pathogènes. Vous savez, récemment, on a vu disparaître le rhinocéros blanc. Et tout le monde a dit, parce qu'il n'y a plus que des femelles, il n'y a plus de mâles. Donc c'est mal parti. Hein. Ouais. Et tout le monde s'est dit, une espèce de mammifère en moins. Moi, je me suis dit, combien d'espèces de microbes qui ne vivent que là ont disparu ? Donc conserver les espèces de plantes, c'est non seul, c'est conserver autre chose. C'est conserver les microbes qu'elles contiennent, c'est conserver les fonctions qu'elles remplissent dans les écosystèmes, et puis peut-être d'ailleurs aussi, c'est conserver des choses pour lesquelles on les utilisera demain. On disait tout à l'heure que les mauvaises herbes étaient devenues de nos champs. Les mauvaises herbes de nos champs étaient devenues des plantes qu'on plante en ornement au bord des routes, et donc on utilise maintenant positivement. Nul ne sait ce que nos enfants auront envie de faire de ces plantes, nous les leur devons.
Moins de plantes, moins d'insectes, moins d'oiseaux, tout ça c'est quoi? C'est presque c'est mathématique.
Mais c'est la même histoire. On a perdu 80% des insectes en Europe sur 30 ans, 33% des oiseaux en France sur 15 ans, et là on est en train de perdre les plantes. En fait, on commence à voir les effets d'une présence et d'une agressivité par rapport au fonctionnement spontané des écosystèmes accru de l'homme, et ça commence à se marquer dans le paysage.
L'humain ne réagit que quand il est vraiment agressé, quand il se sent en état de faiblesse. En quoi la disparition des plantes va affecter l'humanité, par exemple, dans notre quotidien ?
Il y a des tas de fonctions.
Les plantes, c'est quoi ? Les médicaments, par exemple ?
Alors, il y a les médicaments. Tout youyou. Prix Nobel de médecine 2005 pour la découverte de l'artémisinine, une molécule qui soigne contre le palu. Le palu, c'est 600 000 décès par an et 200 millions de malades. Donc il y a dans les plantes des ressources pour se soigner demain, mais il y a aussi des ressources pour soigner les écosystèmes. On parlait de la disparition des zones humides. Oui. Les zones humides, c'est des endroits où les eaux continentales se retrouvent nettoyées, les métaux lourds prélevés, l'azote et le phosphate fixés. Ce sont des zones aussi d'épuration. Et la diversité des plantes qui habitent là, alors que nous, on remblaye et on rebouche tout ça pour faire des zones urbaines ou pour faire des champs, la diversité des plantes, là, c'est elle qui nettoie les eaux.
Ah oui, dans les étangs, les marécages, tout ça, c'est important parce que les plantes nettoient.
Absolument, elle nettoie à ce point que d'ailleurs dans les procédés de lagunage, personne ne va voir où vont les eaux usées. Mais allez voir où vont les eaux usées de votre ville, vous verrez. Il y a un pré-traitement dans des bassins et ensuite on met ça dans des étangs où il y a des roseaux qui vont pomper toutes les saletés qui traînent là-dedans. Et
c'est la salle de bain de l'humanité en fait.
Exactement, c'est de l'eau claire qui ressort, on peut se baigner dedans si c'est bien fait.
Ça permet, Marc-André Solos, de lutter contre l'érosion des sols aussi, comment ?
Bah, le couvert végétal, c'est lui qui agrippe le sol. D'ailleurs, ça, c'est un gros problème, parce qu'aujourd'hui, on pratique beaucoup des cultures retournées à l'automne, de façon à ce que les mottes cassent avec l'hiver, et on a des sols nus pendant 3 à 5 mois. On a des érosions colossales, qui posent à la fois des problèmes de persistance des sols, et puis des problèmes de bouchage des aussi bien des cours d'eau que des retenues d'eau.
Puis en cas d'inondation, ça aggrave le phénomène, c'est ça ?
Et en plus, effectivement... quand il n'y a pas de plantes, eh bien, l'eau ruisselle tout de suite, alors que quand il y a des plantes, en fait, ça change la structure du sol. D'abord, le sol est retenu, et ensuite, l'eau rentre dedans. Donc, la couverture végétale, c'est ce qui nous évite des inondations, et c'est ce qui nous évite de perdre nos sols.
Merci beaucoup, Marc-André Solos. Votre livre « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux, les civilisations » est publié aux éditions Actes Sud.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.